Notre invité surprise, nous l'avons reçu pour des romans qui étaient parfois un peu autobiographiques, surtout lorsqu'il parlait de son arrière-grand-père, le regretté président René Coty. Et aujourd'hui, dans une collection consacrée aux grands faits divers et que dirige Jérôme Béglé, il évoque les balais roses. C'est Benoît Dutertre. Bonjour Benoît Dutertre. Alors, voici donc un livre où vous n'avez rien inventé, absolument rien.
Vraie enquête.
Vous avez mené une enquête, mais elle était déjà bien amorcée, hein?
Oui, par les journalistes de l'époque, voilà. D'abord, par un certain nombre de papiers dans le crapouillot.
Alors, on rappelle en deux mots ce qui avait défrayé la chronique et qui avait fait beaucoup de bruit et pas mal de scandales. Un des personnages les plus importants de l'État, qui était André Le Troquet,
n'était pas manchot.
Il n'était pas manchot. Enfin, en fait, il l'était, mais il affectionnait, et d'où le nom de Ballet Rose, les réunions où il y avait de très très jeunes ballerines, voilà. Et qui ne dansaient pas que la mort du cygne. Hein.
L'expression d'ailleurs qu'on a utilisée à l'époque, c'est le seul manchot qui touche des deux mains.
Des deux mains. Oui.
Parce qu'il a emmené certaines de ses jeune fille dans une loge de l'Opéra de Paris et là il s'est passé des choses pendant le spectacle.
Il se cachait d'ailleurs à peine, hein.
Il se cachait très peu, en fait il était très fier de son ardeur sexuelle. Il expliquait, ouais, à son fils quand il avait 70 ans que depuis l'âge de 16 ans il avait fait l'amour tous les jours et bon, ce qui, après tout, pourquoi pas, hein. Mais visiblement sa femme, dès le début de leur mariage, n'avait pas suffi à répondre, oui, à cette ardeur, et il est très vite allé dans les maisons closes, dans les maisons de rendez-vous, et puis ça s'est corsé au fil des années jusqu'à ce grand âge où il visiblement recherchait de plus en plus des jeunes filles et plusieurs jeunes filles à la fois.
Mais il se tapait des tirades de l'opéra.
Elles étaient mineures.
En fait, l'expression ballet rose est assez mensongère parce,
oui,
que c'était pas des petits, des danseuses.
Ah, c'était pas des danseuses.
Enfin, c'est ce qu'on disait quand même pour le recrutement.
C'est-à-dire qu'elles faisaient des striptease.
Oui.
Parfois, elles étaient recrutées par un faux policier pour vivre.
Dont vous ne donnez pas le nom parce qu'il vit toujours.
J'ai changé son nom dans le livre. Oui. J'appelle Merlu dans le livre.
Il vit toujours.
Et oui. Il a ouvert une boîte à partout un peu plus tard.
Ah ben là, je connais alors.
Utilisation des compétences.
Ça faisait donc toute une accumulation. Et puis cette histoire des balais roses faisait qu'en fait, les gens se sont très vite imaginé une affaire justement beaucoup plus folklorique, avec des vieux messieurs barbus, des petites jeunes filles en tutu, etc. Et il y a toute une imagerie qui s'est superposée à l'affaire réelle, qui est en fait un peu plus sordide que ça.
En fait, le recruteur, il leur faisait un peu, mais toute proportion gardée, le coup de la Star Academy, puisqu'il disait, on va vous présenter, voilà, à des gens importants et vous aurez une belle carrière.
Il faut dire que une des choses qui m'a frappé aussi dans l'affaire, c'est pas très très glorieux, mais c'est que, évidemment, bon, il y a les manipulateurs qui ont abusé de ces jeunes filles, mais en même temps, il y a un jeu des familles qui est un petit peu ambigu, parce qu'au fond, toutes les mères de ces filles espéraient plus ou moins les avantages qu'on leur promettait, des belles carrières pour leurs filles, une entrée dans le monde bourgeois,
d'accord.
Et elles poussaient tout en les retenant, c'était un petit peu...
Ah. Donc c'était des putes, quoi.
Mais elles avaient
pas
quel âge,
tout à fait. Enfin,
c'est la mère au départ qui avait l'âme d'une pute.
Voilà.
Oui. C'est ça.
Oui. La plus jeune avait 14 ans et demi. C'était très jeune. Mais la plupart avaient, disons, entre 15 et 18 ans. Et il faut dire d'ailleurs que la majorité sexuelle était déjà à 15 ans à l'époque.
Oui. Hein.
Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'elles aient été non plus contraintes, puisqu'elles se sont laissées finalement d'abord séduire par ce faux policier et puis entraîner dans ces aventures.
Oui. Alors séduire par le troquet, c'était pas un très bel homme.
Ça, c'était plus difficile, puisqu'il avait perdu donc un bras à la guerre de 14. Il n'était pas très séduisant, mais il était...
très actif.
On parle de quelles années, là, à l'immédiate après-guerre?
L'affaire a éclaté début 59.
Et
elle s'est déroulée dans les années 57-58.
Il
se trouve que le Troquet était le grand homme, un des grands hommes de la 4ème République, puisqu'il était président de l'Assemblée nationale. Il était à l'époque le deuxième personnage de l'État, et l'Assemblée nationale faisait et défaisait les gouvernements. Et comme il s'est opposé très violemment à l'arrivée de De Gaulle en 58, il a lui utilisé cet argument pour se défendre dans l'affaire, en disant, au fond, tout ça, c'est une manipulation gaulliste pour essayer de me faire tomber et pour m'imposer le silence. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il n'était même plus député, plus président de l'Assemblée nationale, et en fait, il ne représentait pas un grand danger pour le pouvoir.
Quelles sanctions la justice a-t-elle prononcé ?
La justice a prononcé des peines qui, aujourd'hui, en fait, dans un certain sens, on a l'impression que les mœurs se sont assouplies, qu'on est plus tolérant, mais je pense qu'aujourd'hui, les peines sembleraient extraordinairement clémentes, puisque celui qui a organisé tous ces balais roses, qui a manipulé cette dizaine de jeunes filles, a écopé de 2 ans de prison, et tous les autres ont eu des peines avec sursis. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils auraient des peines incompressibles, etc.
Le troqueur n'a pas passé une nuit en prison.
Le troqueur n'a pas passé une nuit en prison.
On ne pouvait pas lui passer les menottes en même temps.
Non, mais aujourd'hui... Non, mais il faut être le troqueur qui était un gamin de Paris très pauvre et qui, il faut quand même le rappeler aussi pour ne pas laisser que ce souvenir-là, qui a été un homme extrêmement courageux pendant la guerre. Il a été notamment l'avocat de Léon Blum pendant le régime de Vichy. Il a fait une diatribe très très violente contre le régime de Vichy avant de partir à Alger rejoindre De Gaulle. Mais il avait cette obsession sexuelle qu'il a poursuivie toute sa vie et en plus il adorait ses aventurières. Alors on a parlé d'Elisabeth de Pinaïef et l'autre c'était Fanny qui était une petite artiste qui faisait le second rôle au cinéma.
Elle avait fait un peu de cinéma. Voilà. Mais bon.
Elle s'était fait d'abord appeler d'ailleurs Fanny Claire. Et puis finalement, elle a lu un article sur un coucher de soleil en Kabylie. Elle a dit un coucher de soleil mauve et elle a repris le.
Et qu'est-ce qui a découvert le poteau rose ?
C'est tout simplement une jeune fille, une des filles qui a été arrêtée, qui errait dans Paris, qui était visiblement un peu simple d'esprit, parce qu'elles étaient vraiment souvent assez pauvres et très manipulées, et qui a commencé à raconter l'histoire. Il y a eu une première enquête qui a été interrompue, une seconde enquête, etc.
Parce que c'est quand même l'époque où la presse était moins portée sur l'investigation et le scandale qu'aujourd'hui. Hein.
C'est vrai, d'ailleurs. Mais en plus de ça, il y avait aussi le fait que le principal inculpé, celui qui organisait les balais roses, avait beaucoup d'amis dans la police, et il a réussi à faire arrêter deux fois de suite l'affaire.
Enfin, les chansonniers s'en sont donnés à cœur joie à l'époque.
Ne regardez pas, j'étais pas né, Philippe.
Voilà, merci à Benoît Duterte d'avoir publié entre deux romans. Voilà. C'est Belle et Rose, c'est une tranche de vie et pas la plus honorable de cette fin de 4e République.
Merci à vous.